Le valet de cœur de Frédéric Thomas. La montagne noire est au département du Tarn et de l'Aude ce que les Pyrénées sont à la France et à l'Espagne. Elle sépare les deux départements de la même manière et dans le même sens que la grande chaîne sépare les deux royaumes. Le versant septentrional de la montagne noire regarde l'ancien pays d'Albigeois, et de ce côté, à l'endroit précis où les pentes en expirant se perdent dans la plaine, à partir d'une petite ville manufacturière qui est l'Elbeuf et le Louvier de ces contrées, à partir de Mazanet jusqu'à Castres-sur-Lagou, une mince rivière du nom de Thorée décrit ses méandres sur la lisière de la plaine et festonne de ses rubans argentés la robe verte de la montagne. Le Thorée laisse sur la gauche le château d'Aiguefonde campé sur les plus basses ondulations de la montagne noire. Aiguefonde a reçu de son architecte et du temps ce cachet d'élégance majestueuse et cette vétusté de bon lieu que les grands seigneurs d'autrefois ont imprimé à ces contrefaçons des résidences royales qu'ils se taillaient au fond des provinces. Il y a 3 ans, je séjournais dans ce château, résidence princière comme l'hospitalité qu'on y reçoit, et un matin de septembre que nous venions de déjeuner sur la terrasse, le maître du lieu, monsieur de Spirondien, baron d'Aiguefonde, me fit remarquer à l'horizon une masse noire se détachant sur le brouillard qui estampait les sinuosités de la rivière. « Ce que vous voyez là-bas, me dit-il, à côté de ce bouquet de sapins, c'est le manoir d'Orion. Ah, je sais que vous m'en avez déjà parlé, et surtout du propriétaire, monsieur le marquis de Fariol, un vieillard assez original à ce qu'il paraît. Très original, reprit le baron avec une intention marquée. Ma foi, je ne serais pas fâché de faire la connaissance d'un pareil homme. Je l'avais prévu, repartit monsieur d'Aiguefonde, comme s'il lui guettait ce désir. Et ces jours-ci, en passant par là, au retour de la chasse, je me permis à tout hasard d'annoncer votre visite à mon voisin de campagne. » Ces paroles furent accompagnées de ce sourire mystérieux que prennent les gens d'esprit quand ils veulent piquer votre curiosité. « Pour le coup, m'écriai-je, vous m'intriguez tout à fait, et je tiens à savoir au plus vite à quoi m'en tenir sur votre marquis. Rien de plus aisé, mon ami. » Vous n'avez qu'à dire à Lapierre de vous sceller passe-volant, et ce soir au dîner, vous pourrez nous raconter votre entrevue avec le marquis de Fariol. Ce qui fut dit fut fait. 5 minutes plus tard, j'étais en selle, l'œil fixé vers la masse noire qu'on m'avait désignée. Bientôt le chemin que je suivais côtoya le Thorée et ne s'en écarta plus jusqu'au terme de ma promenade. Passe-volant n'avait pas trotté 1 heure que j'avais sous les yeux une immense ruine, membres épars attestant encore la splendeur de l'édifice superbe, alors qu'il était vivant et debout. Du côté de la rivière, une épaisse muraille à fleur d'eau partait d'un amas de décombres qui avait dû être une tour et aboutissait à une seconde tour dont les flancs entr'ouverts laissaient croître un figuier qui poussait dans les interstices des pierres en compagnie de framboisiers et de ronces. Du côté de la campagne, les ruines éparpillaient inégalement leur désolation et leurs débris, mais rien n'indiquait que le manoir d'Orion fût habité. Néanmoins, passe-volant, qui avait ses raisons pour prouver le contraire, poussa ce hennissement de joie qui annonce le voisinage de l'écurie. Le voyant si bien renseigné, je lui mis la bride sur le cou. Alors il tourna autour de cette enceinte de ruines, et bientôt il me fit passer sous un pavillon ayant un toit sur sa tête, des contrevents à ses fenêtres et des rideaux derrière les croisées. C'était là évidemment que monsieur le marquis de Fariol avait concentré son logis. Toutefois, je ne voyais pas d'entrée, mais après un nouveau circuit, passe-volant pénétra comme par une brèche dans une sorte de cour d'honneur et s'arrêta devant un portail. Je mis pied à terre. Un petit paysan, que le trot du cheval avait réveillé, vint encore à moitié endormi le prendre par la bride et presque aussitôt parut un vieux laquais d'une mine fort respectable et d'une tenue qu'on ne rencontre guère chez ses pareils à cette latitude provinciale. Le valet reconnut le cavalier au cheval. « Monsieur, me dit-il, vient de la part de monsieur le baron d'Aiguefonde. » Il me demanda mon nom et passa devant moi pour m'introduire. Nous montâmes un de ces escaliers dont les marches sont de pierre, comme la rampe à balustre, et auxquels nos aïeux ne marchandaient ni la matière ni l'espace. Arrivé au premier étage, le laquais me précéda dans un corridor. Où, ayant fait quelques pas, il ouvrit une vaste salle, puis une seconde que nous traversâmes, et au fond de laquelle il frappa doucement à une porte. Une voix répondit de l'intérieur. Le laquais poussa la porte, m'annonça et sortit. j'étais en présence du marquis de Fariolles. Le marquis était assis sur un large fauteuil de crin, la jambe gauche étendue sur un tabouret qui faisait vis-à-vis. Le salon où nous étions communique par une porte-fenêtre à une sorte de toiture en terrasse qui recouvre un avant-corps du rez-de-chaussée. Au moment où j'entrais, le vieux gentilhomme était en train de jeter des miettes à un vol de pinsons et de chardonnerets qui s'était abattu sur cette toiture et s'y gobergeait en habitué du lieu. Plus près de lui, de Tourterelle mangeait des grains de blé dans une écuelle de bois. À mon aspect, tout ce personnel d'oiseaux prit frayeur. Ils s'envolèrent tous avec fracas, sauf les deux tourterelles, qui, poussant un cri aigu et se serrant l'une contre l'autre, allèrent s'accroupir sous le fauteuil de leur hôte. Je m'excusai d'avoir dérangé cette scène. « Oh, ce n'est rien !» me dit amicalement le marquis. « Mes pensionnaires en étaient au dessert. » En même temps, et pour me faire bon accueil, le vieux gentilhomme s'était soulevé en s'aidant d'une canne à pommes d'or qu'il tenait à la main. Ce mouvement lui avait permis de développer une taille plus imposante, dominée par une figure d'un tour plein de noblesse. Quoiqu'il fût presque toujours seul au fond de son manoir, et que sa goutte l'empêchât d'en sortir, le marquis de Fariolles avait l'habitude de se faire habiller de pied en cap comme s'il eût attendu de la compagnie ou qu'il eût pu en aller chercher. Je le trouvais donc vêtu selon l'élégance de la vieille mode, habit à la française, cheveux poudrés, jabot, manchette, culotte courte, bas de soie et souliers à boucles. Bien entendu que ces derniers articles ne s'appliquaient qu'à la jambe valide, car l'autre jambe s'accommodait à peine d'une guêtre et d'une pantoufle, ce qui faisait le plus singulier contraste. Après les compliments dont l'usage a fait autant de banalité, « Monsieur, me dit le marquis en souriant, vous m'avez trouvé occupé à faire un peu de la besogne du bon Dieu, car moi aussi, aux petits des oiseaux, je donne la pâture, et ma bonté s'étend sur toute la toiture. » Cette parodie me fait rire, ce qui parut enchanter le vieillard. Il répondit à mon hilarité par une manifestation gutturale, qui avait plutôt l'air d'un prélude de tout que d'un éclat de rire. « Très bien, continua-t-il, voilà la glace rompue. Maintenant, mon cher monsieur, c'est comme si vous me connaissiez depuis 15 ans, car depuis 15 ans je fais tous les jours le métier que vous m'avez vu faire. Je vis au milieu de ces oiseaux que je fais vivre et sous les yeux de mes ancêtres que j'ai l'honneur de vous présenter. » En parlant de la sorte, le marquis de Fariolles désignait du bout de sa canne les toiles qui couvraient presque entièrement la boiserie du salon. J'avais déjà jeté un coup d'œil sur tous ces cadres, mais les paroles et le geste du marquis y rappelèrent mon attention. Tous ces tableaux étaient des portraits de grands personnages, gens d'épée, de robe et d'église. Par-ci par-là, des femmes, souvent belles, mais toujours d'une suprême élégance, soit que le cadre ovale ne nous montrât que les contours de leur buste, soit que la toile plus généreuse nous les retraça des pieds à la tête avec une mine fraîche, des fleurs dans les mains ou dans les cheveux quand elles étaient jeunes, ou bien avec la prestance rogue et quelques chiens favoris, sur un coussin de velours d'or, quand ils avaient atteint la maturité des douairières. Mais au milieu de tous ces portraits, un seul surprit et fixa mes regards. Tout d'abord même, je n'en crus pas mes yeux. C'était le portrait en pied du valet de cœur. Oui, vraiment, entre un chevalier de Malte et un marquis à tabouret, l'Aïre, le propre valet de cœur se tenait raide, les pieds à la seconde position du danseur, le revers de la main droite cavalièrement posé sur la hanche, et à la main gauche une hache d'armes. Sur sa tête, la perruque à cascade, la toque sans plume. Rien n'y manquait, ni les rosettes sur les souliers jaunes, ni l'épée en travers battant au mollet bleu. Puis, par-dessus cet accoutrement, le coton rouge bordé de passementeries jaunes, les manches traînantes, doublées de satin bleu semé d'abeilles. Enfin, pour achever la ressemblance, un cœur rouge frappé au coin gauche du tableau, j'allais dire de la carte. Seulement, la figure du valet de cœur me parut plus vieille qu'elle n'a coutume d'être dans les cartes. Et pour comble de singularité, il me sembla vaguement que cette figure était de ma connaissance. Dans tous les cas, que diable pouvait signifier le portrait de l'Aïre en cet endroit? Était-ce un épigramme du marquis contre ses ancêtres, ou bien était-ce qu'une pensée philosophique, le marquis ayant voulu exprimer que la naissance n'est qu'un hasard et qu'un jeu? Ma foi, je me perdais en conjectures. Le vieillard, de ses petits yeux gris, surveillait mon attitude et lisait sur mon visage les pensées qui se disputaient mon esprit. « Je vois ce qui vous intrigue, me dit-il, mais si vous tenez à savoir pourquoi ce valet de cœur figure à cette place, je puis vous satisfaire. » Seulement, je vous en préviens, c'est toute une histoire. » « Une histoire ? Eh bien, tant mieux » m'écriai-je en allant m'asseoir en face du marquis sur un fauteuil qu'il m'indiquait du doigt. « Vous le voulez ? Je commence, » me dit le vieux gentilhomme. « Puisque vous êtes de cette province, vous devez avoir entendu parler des barons d'Ambre dont le nom est resté comme le type du seigneur despote et cruel. Beaucoup de nobles, avant la Grande Révolution, avaient deux faces, souriants et magnifiques à la cour, avides et terribles au fond de leur château, jetant là-bas à pleine main l'or qu'ils ramassaient sou à sou à force de vexations et d'impôts, faisant payer à la province la gloire et les humiliations de Paris. Philosophes à la cour quand il fallait obéir, tyrans sans pitié quand il fallait commander ou punir leurs vassaux. Le baron d'Ambre était de ces nobles-là. Il se montrait surtout jaloux jusqu'à la cruauté de son droit de chasse. Pour un méchant lièvre, un faisan, une perdrix tuée sur ses terres, il vous flanquait de pauvres diables dans les basses fosses ou dans les tours de son château. Il les y oubliait, puis de temps à autre, il les faisait extraire et conduire en sa présence. « Eh bien, un tel, disait-il au prisonnier, me reconnais-tu ? » « Oui, monseigneur, vous êtes le baron d'Ambre. »« Ah, tu me reconnais, mon garçon. En ce cas, il n'y a pas assez longtemps qu'on t'a enfermé. » Et en se tournant vers ses estafiers, « Allons, disait-il, qu'on remise ce gaillard-là jusqu'à ce qu'il ne me reconnaisse plus. » Eh bien, ce baron d'Ambre avait une fille unique et d'une extraordinaire beauté. Par malheur, ce qui gâtait tous ses avantages de la nature, c'était un caractère altier et une arrogance sans pareil. Cela n'empêcha pas les seigneurs les plus brillants de la contrée de venir faire leur cour à monsieur le baron d'Ambre et à mademoiselle Isaure, attirés qu'ils étaient par les beaux yeux de la fille et peut-être aussi par ceux de la cassette. Entre tous les autres, il s'en trouva un bien noble et bien inconnu qui soupirait par là dans l'ombre, sans rien dire, osant à peine s'avouer à lui-même cette folie tant le but était loin de sa portée. C'était un pauvre gentillâtre des environs, le dernier enfant d'une famille nombreuse. Or, à cette époque, quand on n'était pas l'aîné, on vous donnait à Dieu ou au diable, c'est-à-dire qu'on vous envoyait au séminaire ou à l'armée. Gédéon de Jonquière, ainsi se nommait le pauvre soupirant, se destinait à l'une de ces professions. Mais en attendant qu'il allât chercher fortune dans les armées du roi, le chevalier, comme on l'appelait dans sa famille, habitait la maison paternelle où son frère aîné, qui était aussi son parrain, régnait en maître absolu. Le nouveau chef de la famille avait réduit tous ses frères à une subordination qui en faisait autant de valets sans gages. Le chevalier seul se révoltait contre ce joug, et en attendant qu'il pût s'y soustraire tout à fait, il s'y dérobait du moins autant qu'il était en lui. C'est pourquoi, excepté aux heures des repas et du sommeil, on ne le rencontrait guère au logis, mais on eût été certain de le trouver. Un fusil sur l'épaule et un chien à ses côtés chassant dans la montagne. Un autre motif n'était pas étranger à ces absences continuelles du jeune homme. Le baron d'Ambre chassait aussi en grande compagnie dans ces parages, et mademoiselle Isaure, qui était la diane de ces forêts, était la reine de ces fêtes. C'est même de la sorte que Jonquière l'avait vue, connue, admirée, tout cela sans jamais paraître aux yeux de l'orgueilleuse, mais en se cachant au contraire dans les bruyères ou dans les taillis, derrière un buisson ou derrière un rocher. Quel bonheur pour le pauvre chevalier, lorsque de loin, sans être vu, il avait pu apercevoir la frange d'une écharpe ou le coin d'un voile sur un cheval lancé au galop. Dès que le cortège avait passé, le guetteur s'élançait tout ému, cherchant parmi ses traces indifférentes celle du cheval qui portait Isaure. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'il croyait les deviner et les reconnaître. Alors il tombait à genoux, des soupirs plein le cœur, des larmes plein les yeux. Le chien s'arrêtait aussi, regardant son maître de cet œil attentif et compatissant qui donne à penser que ces animaux comprennent nos peines et les partagent. Le chevalier restait ainsi des heures entières, et quelquefois la nuit le surprenait au même endroit, alors il s'en allait tristement vers son logis, ne se dissimulant pas que son amour était sans espoir, mais aussi sans remède. Le temps s'écoulait de la sorte. Jonquière éprit de plus en plus d'Isaure, et Isaure ne se doutant seulement pas de l'existence du chevalier, lorsqu'une occasion des plus naturelles vint pour la première fois les mettre en présence. Il arriva qu'un jour une cavalcade de belles dames et de brillants seigneurs, sous la conduite du baron d'Ambre et de sa fille, revenait de je ne sais quelle excursion dans la montagne. Comme la nuit approchait et que pour abréger la distance on avait pris des chemins de traverse, la noble compagnie fut un moment en peine de la direction qu'il fallait suivre. Jonquière se trouva par là. Selon son habitude, et selon son habitude aussi, il voulut se cacher, mais il s'y prit trop tard. Mademoiselle d'Ambre l'aperçut, et comme elle était prompte à délibérer, elle se détacha de la troupe et poussa son cheval droit au chasseur. Elle l'aborda avec fierté et l'interrogea d'un ton impérieux, sans même daigner abaisser ses yeux vers lui. On se figure la surprise et le trouble de Jonquière. C'était la première fois qu'il voyait Isaure de si près, la première fois qu'il entendait cette voix aimée, et c'était à lui qu'on parlait, à lui, tout embarrassé de sa contenance, tout honteux de son costume, à lui, couvert de poussière, souillé de boue, déchiré par les ronces du chemin. Il essaya de répondre, mais la parole s'arrêta sur ses lèvres, ses jambes fléchirent, il rougit comme un criminel, et de la main seulement il put indiquer la route qu'on lui demandait. Cette hésitation, ce trouble, ce silence donnait à l'attitude du chevalier un air à la fois piteux et comique. Isaure le remarqua, et comme elle ne se piquait guère de bienveillance, elle toisa le pauvre jeune homme d'un regard de mépris qui le fit tomber en confusion. Puis ajoutant la raillerie au dédain, Mademoiselle d'Ambre partit d'un grand éclat de rire. La compagnie, qui était restée à quelques pas en arrière, accourut à ce bruit, et alors les brocarts tombèrent drus comme grêle sur le pauvre chevalier. Un certain marquis d'Écolive, le prétendant le plus sérieux à la main d'Isaure, renchérissait sur tous les autres, croyant sans doute, en outrant l'insulte, faire montre d'un plus grand zèle et d'un amour plus violent. Pendant ce temps-là, Jonquière, étourdi par ses clameurs, cerné par toutes ses moqueries, comme un sanglier par une meute, jetait autour de lui un regard effaré qui ne faisait que redoubler les rires et l'insolence de ses ennemis. Bientôt, des yeux hagards se fixèrent sur l'insolent marquis, puis machinalement ils retombèrent sur le fusil, la seule arme qui fut au pouvoir du chevalier. Un moment il la considéra avec terreur, comme s'il eût rougi de s'en servir, mais enfin, poussant un cri de vengeance, il bondit en arrière comme un furieux, et là, s'étant saisi de cette arme, il coucha en joue le plus acharné de ses persécuteurs. C'en était fait du gendre futur de monsieur le baron d'Ambre. Si le père d'Isaure n'avait poussé vivement son cheval entre l'arme du chevalier et la poitrine du marquis. En même temps, sur un geste du baron, des balais se précipitèrent sur le jeune chasseur et l'ayant désarmé, par trahison, le renversèrent, écumant mais dompté. Le baron d'Ambre, voyant le chevalier sans défense et terrassé, sembla se repaître du spectacle de cette humiliation. Mais comme si ce n'était pas encore assez, il fit avancer son cheval jusqu'auprès de Jonquière, et s'étant penché vers lui, il lui sangla la figure de deux coups de cravache. Après quoi, le baron partit au galop et toute la compagnie s'envola sur ses traces. Jonquière resta seul, pleurant de rage et se débattant comme un insensé dans son impuissance et dans sa fureur. La nuit se passa sans autre nouvelle du malencontreux chevalier. Le lendemain, comme on se disposait à partir pour la chasse, et que dans la cour de son château le baron d'Ambre avait aligné les cavaliers et les belles dames qui devaient y prendre part, pendant que la meute grondait sous le fouet des piqueurs et que les chevaux piaffaient d'impatience et lançaient en l'air leur hennissement avec leur écume, tout à coup, sur un cheval maigre, un pâle jeune homme parut. Les plus rapprochés de la porte l'eurent bientôt reconnu pour le chasseur qu'on avait insulté la veille, mais si les rires essayèrent de recommencer, ils se figèrent bientôt sur le regard résolu du survenant. Que venait-il faire? Tous les yeux étaient tournés vers lui, et chacun observait un profond silence dans l'attente de ce qui allait arriver. Gédéon de Jonquière, car c'était bien lui, jeta un coup d'œil circulaire, et ayant aperçu le baron à cheval au milieu de ses compagnons de la veille, il piqua droit à lui, et quand il fut à quelques pas seulement, il s'arrêta. « Monsieur le baron, dit-il d'une voix pénétrée, hier, en présence de tous ces gentilshommes, je fus déshonoré par vous. Un tel affront exige votre mort ou la mienne, mais vous êtes le père de Mademoiselle Isaure d'Ambre. » Alors, ayant pris un pistolet, il leva le canon en l'air et tira en visant par-dessus la tête du baron. « Voilà pour vous, » dit-il. Cela fait, il jeta l'arme encore fumante, puis, ayant saisi un second pistolet, il le tourna contre sa propre poitrine en disant « Voici pour moi ». Après quoi une nouvelle détonation se fit entendre et le chevalier tomba. Un cri d'étonnement et de stupeur retentit dans l'assemblée. Cet étrange duel, où l'agresseur se faisait la victime, avait fortement impressionné tout le monde, mais aucun cœur n'avait été remué aussi profondément que celui de Mademoiselle Isaure. Elle avait suivi tous les mouvements, entendu toutes les paroles du chevalier, et quand elle le vit tomber à la renverse, un cri déchirant lui échappa. Elle sauta aussitôt à bas de son cheval, et la première, elle arriva auprès du blessé, qui n'était peut-être qu'un mort. Il fallait voir avec quelle tendre sollicitude elle s'inclina vers lui. Du geste, écartant tout le monde, comme si le chevalier lui eût appartenu à elle seule, la jeune fille appuya sa main frémissante d'inquiétude sur la poitrine de Jonquière. Chacun regarda et attendit en silence. Enfin, Mademoiselle d'Ambre releva la tête, et d'une voix où vibraient l'émotion et l'espoir, elle dit « Il n'est pas mort, il respire encore !» Ce fut alors, parmi tous les témoins de cette scène, comme un murmure d'allègement après une violente oppression. Seul, le baron, qui tremblait encore de la peur que le chevalier venait de lui faire, essaya de dissimuler sa frayeur sous un accès de colère. « Mort ou vif ! » cria-t-il à ses valets, « qu'on me débarrasse de cet homme, qu'on le porte hors d'ici !» Mais la nouvelle protectrice de Jonquière, étendant ses belles mains sur le corps du chevalier, « Non, mon père, » dit-elle avec démence, « cette violence ne s'exécutera pas. » Et comme son œil suppliant rencontra le regard irrité du baron, « Vous vous y opposerez vous-même, mon père, » ajouta-t-elle d'une voix plus douce, « cet homme n'est pas mort, et votre ordre le tuerait infailliblement. N'oubliez pas qu'il est votre hôte, votre ennemi, et que vous êtes gentilhomme. » Le baron serra les poings et haussa les épaules avec dédain. Il allait passer outre, mais ayant regardé la compagnie, il n'osa pas rompre en visière à l'émotion générale, et il céda. « Soit, » murmura-t-il entre ses dents, « qu'on le laisse ici. » Puis, ayant élevé la voix, « Messieurs, s'écria-t-il, l'extravagance d'un fou n'empêchera pas notre chasse, partons !» Après quoi, laissant tomber un dur regard sur Isaure, qui se tenait toujours à genoux à côté du blessé, « Vous m'avez entendu, mademoiselle, » ajouta-t-il. La pauvre fille comprit ce regard. Elle se leva et lentement obéit à son père. Elle n'eut que le temps de glisser un mot à l'oreille d'Alisette, sa femme de chambre, en lui recommandant le malheureux gentilhomme. On partit pour la chasse, Isaure cachant ses larmes et dévorant ses inquiétudes, car une résolution subite venait de s'opérer dans son âme. Elle répétait tout bas les paroles de Jonquière au baron. « Vous êtes le père de Mademoiselle Isaure. C'est donc grâce à ce titre seul que mon père a été épargné. Jonquière m'aimait donc. Et comme la neige au soleil d'avril fond sur notre montagne, ainsi la fierté d'Isaure s'évanouit dans son cœur sous le rayon d'un sentiment inconnu. » Mademoiselle d'Ambre parla fort peu à ses compagnons de chasse, mais on put s'apercevoir qu'elle évitait M. le marquis des Collives, celui qui d'ordinaire était favorisé de son meilleur accueil et qui, par ses railleries de la veille à l'encontre du pauvre chasseur, avait cru acquérir un nouveau titre aux bonnes grâces de Mademoiselle Isaure. Celle-ci avait un air soucieux et préoccupé. Si on lui parlait, son attention était ailleurs. Son œil distrait regardait au loin. Elle avait l'air d'attendre quelque chose, et soit préméditation ou hasard, elle s'écartait souvent de la chasse. Dans un de ces moments, un jeune pâtre vint la trouver et lui remit une lettre, qui fut ouverte avec la plus vive inquiétude. C'était un avis d'Alisette. La fidèle camériste informait Isaure que le médecin du château, après avoir sondé la blessure du chevalier, avait déclaré qu'elle n'offrait aucun danger. La balle, privée d'air et d'élan, avait à peine pénétré dans les chairs. C'était la commotion qui avait déterminé la chute et toutes les deux ensemble qui avaient jeté le chevalier dans un long évanouissement. Isaure couvrit cette lettre de baisers et la pressa contre son sein. Elle était heureuse. Elle éprouvait une plénitude de tendresse qui débordait de son cœur et mouillait ses yeux de larmes délicieuses. Une âme nouvelle, échappée du ciel, venait de prendre possession de son corps. Mais après les premiers transports de cette joie, la réflexion vint aussitôt, et Isaure s'attrista presque autant que si on lui apportait l'annonce d'un malheur. Nul doute que dès son retour au château, le baron d'Ambre, instruit de l'état du blessé, ne fit transporter Jonquière dans sa famille. « Mais alors je ne le verrai plus, » pensa Isaure. « Et lui, il me détestera et me maudira, car il ne connaîtra que mes dédains, que mes indignes railleries, que mes lâches insultes. Personne ne lui dira mes larmes, mon repentir, mes remords. Oh, il faut pourtant qu'il les connaisse, car je ne vivrai pas avec sa haine. Oui, plutôt 100 fois la mort que sa haine. » En parlant de la sorte, elle avait ralenti l'allure de son cheval, sans prendre garde que la chasse s'éloignait toujours. Une pensée de terreur la fit frissonner. Mon père me tuerait, murmura-t-elle, et par un geste involontaire, elle poussa son cheval qui prit le galop. Il me tuerait, et qu'importe, continua-t-elle en ramenant la bride. Le chevalier n'a-t-il pas voulu mourir pour moi? Montre-lui que j'ai autant de courage. Elle n'osait encore dire autant d'amour, et le cheval s'arrêta tout à fait. Un peu plus tard, cette jeune fille si méprisante et si fière était humblement agenouillée auprès d'un matelas sur lequel gisait, dans une chambre des communs, le chevalier de Jonquière. Celui-ci avait repris connaissance. À l'aspect d'Isaure, il crut que ses yeux, troublés par le délire de la fièvre, lui présentaient quelque céleste apparition. Pâle, les yeux hagards, la poitrine agitée, il se leva sur son séant pour mieux contempler cette image de ses rêves. Au même instant, un grand bruit du dehors vint annoncer à l'oreille alarmée d'Isaure le retour précipité de la chasse. La pauvre fille frémit de terreur en mesurant l'étendue de sa faute et de sa punition, mais par un sublime effort, elle n'en laissa rien paraître. Elle ne voulait pas gâter le bonheur du chevalier. Isaure eut le courage de sourire. Elle parla doucement au blessé, doucement lui prit la main, et avec tendresse lui dit « Au revoir ». Après quoi elle se retira, pour ne pas rendre Jonquière témoin de ce qu'elle allait souffrir à cause de lui. Le baron d'Ambre avait tout deviné, tout compris. Outré de fureur, il cherchait sa fille pour la tuer, disait-il, et certes, dans l'aveuglement de sa colère, il se serait porté à quelque extrémité funeste. Par bonheur, Isaure fut soustraite aux premières recherches de son père par un ami qui, craignant tout d'une confrontation, se chargea de transmettre à la pauvre fille l'indignation et les ordres sévères du vieillard. C'est pourquoi, dès le soir même, Mademoiselle d'Ambre quitta le magnifique appartement qu'elle habitait pour se voir enfermée dans une chambre de pierre située aux étages inférieurs d'une tour du château qu'on appelait la tour des 12 apôtres. « Eh mais, » continua le marquis de Fariol en m'interpellant directement, « c'est cette tour dont il reste encore des vestiges du côté de la rivière. Vous avez dû la remarquer en arrivant ici. »« Et quoi » m'écriai-je, interrompant le conteur en cet endroit du récit. « C'est donc ici le château qu'habitait le baron d'Ambre ?»« Certainement. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit ?» observa le vieux gentilhomme d'un air surpris. « Ah, par exemple, » poursuivit-il en secouant la tête avec tristesse, « le baron d'Ambre, s'il revenait à la vie, aurait bien de la peine à reconnaître son ancienne demeure. Il fallait voir ce château avant que la grande révolution eût passé par là. Mais voilà que je m'oublie. » « Ne parlons pas de ça, » poursuivit-il avec un accent de regret. « Hélas, ce qui est mort est mort. Voyons, où en étions-nous de l'histoire ?» Ah, m'y voici. Mademoiselle Isaure d'Ambre fut enfermée dans la tour des 12 apôtres. On l'appelait ainsi parce qu'elle contenait 12 cellules de pierre pour autant de prisonniers. Au tiers de sa hauteur, une plateforme coupait la tour des 12 apôtres. Cette plateforme communiquait de plein pied avec la nouvelle chambre d'Isaure et servait de base à un donjon qui continuait la tour. Sous les yeux de la captive coulait le torrent dont les eaux baignaient les murs du château. Et sous les pieds d'Isaure, entre la rivière et sa chambre, étaient les cachots de pierre réservés aux prisonniers du baron d'Ambre. Ces étroites prisons recevaient le jour du côté de la rivière par de petites lucarnes armées de fortes grilles, et comme si ces barreaux et la rivière coulés en bas n'eussent pas été une garantie suffisante contre toute évasion, le châtelain avait fait sceller dans les murs, à fleur d'eau, des broussailles de fer qui hérissaient de leurs pointes, de leurs crochets, de leurs crampons, les abords de cette tour. Terrible appareil qui présentait au fugitif, dans sa chute, un instrument de torture et de mort. On était à l'entrée de l'hiver lorsque Mademoiselle d'Ambre fut enfermée, par ordre de son père, dans la tour des apôtres. Le vieillard, dans les premiers moments de son courroux, avait juré que jamais il ne reverrait sa fille. L'hiver se passa, le baron tint parole, et rien n'attestait qu'il dût plus tard se laisser fléchir. Pendant ce temps-là, le chevalier de Jonquière, heureux maintenant qu'il est aimé, n'avait pas oublié la jolie captive. Grâce au dévouement d'Alisette, les deux amants avaient pu échanger des témoignages écrits de leur affection, et ils furent assez heureux pour que personne ne découvrît leur manège. Il résulta de là que les frères de Gédéon, qui ne se doutaient pas de ce tendre commerce, crurent que le chevalier ne songeait plus à sa conquête. Ce qui acheva de les confirmer dans cette pensée, ce fut que Gédéon les assembla un jour pour leur dire qu'il était en âge d'aller chercher fortune dans les armes, et qu'il ne demandait qu'à partir pour un régiment, moyennant que ses frères lui en faciliteraient les moyens. L'aîné fut enchanté de cette résolution. Le chevalier ne lui était bon à rien, disait-il, et pour s'en débarrasser plus vite, rien ne lui coûterait. 500 écus furent remis à Jonquière. Il devait les employer à son équipement dès son arrivée à destination. De plus, on y joignit un cheval et un garçon de ferme qui devait servir Jonquière en qualité de goujat. Le chevalier se montra accommodant sur toute chose, sauf en ce qui touchait son domestique. Il voulut le choisir lui-même, et par un singulier caprice, il prit le plus malotru, mais aussi le plus grand de tous ceux qu'on lui présenta. Les choses ainsi réglées et le jour pris pour le départ, Jonquière fit ses adieux à tous les siens, qui lui firent une médiocre conduite. Il partit avec son grand diable de compagnon qui le suivait à pied, tirant tous les deux vers la ville de Castres, comme c'était leur chemin. Mais à peine eurent-ils fourni une petite traite que le chevalier interrompit le voyage, et sous un prétexte, il descendit de cheval dans un hameau des environs et y attendit la nuit. La nuit venue, le gentilhomme se remit en selle, escorté de son valet. Mais au lieu de suivre la première direction, il rebroussa chemin et retourna sur ses pas. Ils marchèrent ainsi jusqu'à la rivière du Toré. Comme on était au printemps, la fonte des neiges, qui a lieu à cette époque dans la montagne noire, avait grossi les eaux du Toré, si bien que la petite rivière débordait. Cela n'empêcha pas le chevalier d'en suivre quelque temps les bords. Arrivé à un certain endroit, il trouva, à tâtons, un arbre auquel était attachée une barque. Le chevalier ouvrit le cadenas qui retenait la chaîne de la barque et ordonna au valet d'y entrer, lui et le cheval. Le paysan, effrayé du péril, fit d'abord quelques façons, puis refusa tout net. Le chevalier, qui avait prévu les objections du rustre et qui n'était pas de force à en triompher de haute lutte, s'était muni de deux arguments qu'il portait à sa ceinture. Alors, sans entrer dans la discussion, il prit un des deux arguments qui était un pistolet, mais la menace suffit et le valet obéit en gémissant. Le chevalier entra le dernier dans la barque, et une fois dedans, il se saisit d'un aviron et poussa au large. Quand il fut au milieu de la rivière, le courant emporta la barque avec une effrayante rapidité. Les ténèbres étaient des plus épaisses. Pourtant, après quelques minutes de cette dangereuse navigation, le chevalier distingua une masse tellement noire qu'à cette exagération de la nuit, il supposa qu'il approchait du but de son expédition. Bientôt, le bruit de la rame répercuté par l'écho des murailles confirma le témoignage suspect des yeux. « Nous sommes arrivés, » dit tout bas Jonquière à son valet, et bravement il poussa la barque vers la masse noire. Un moment après, la barque heurta si vivement un obstacle que le domestique fit un soubresaut en arrière, et le cheval, collant ses oreilles inquiètes contre son cou, poussa un hennissement d'effroi. Mais sans s'inquiéter de ce bruit qui pouvait le trahir, le chevalier avait donné toute son attention à un autre bruit. À la nature du choc de la barque, il avait compris que c'était le mur qu'elle avait touché. Et prestement, il s'était accroché de ses ongles aux interstices des pierres, afin d'arrêter la nacelle dans son élan. Ainsi, les calculs du chevalier étaient justes. La rivière, en grossissant, avait dépassé les pointes de fer qui défendaient les approches de la tour quand les eaux étaient basses. Jonquière appela doucement son valet et le mit à sa place. Puis, lui-même, il se jeta à plat ventre sur la barque, cherchant avec ses deux bras, plongé dans l'eau, une pointe, une dent, un crampon où il put accrocher la chaîne qu'il tenait à la main. Après quelques tâtonnements, il trouva ce qu'il cherchait, et la barque fut fixée. Cela fait, Jonquière alla au cheval, qu'il flatta de la main pour calmer l'effroi de la pauvre bête, et pour plus de sûreté, il l'attacha par la bride à une cheville de la barque. « Et maintenant, dit le chevalier au domestique, vous allez monter là-dessus. »« Comme vous voudrez, monsieur, » répondit en son patois le paysan, qui depuis l'exhibition du pistolet s'était fort assoupli. En même temps, il grimpa sur la selle. Le maître, en surveillant l'exécution de l'ordre qu'il venait de donner, trouva les jambes du rustre pendantes contre les flancs du cheval. « Eh bien donc, que faites-vous » demanda-t-il à voix basse. « Je fais ce que vous voulez. Ne m'avez-vous pas dit de monter à cheval ?»« Sans doute, mais pas assis, debout. »« Miséricorde, debout sur le cheval. » »« Et sur quoi donc ?» repartit le maître avec autorité. « Debout ou sinon ?» Le valet poussa un soupir et s'agenouilla aussitôt sur la croupe de la monture. Le chevalier, qui suivait de la main tous les mouvements du domestique, s'aperçut qu'on n'exécutait que la moitié de sa volonté. « J'ai dit debout, » répéta-t-il d'une voix qui n'admettait pas de réplique. Le paysan soupira plus fort et déplia une jambe. Il était alors dans la position du soldat au commandement de genoux en terre. Enfin, Après un instant d'hésitation, il hasarda la seconde jambe et se dressa de toute sa hauteur. « C'est bon, maintenant tenez-vous bien, » dit Jonquière, « je vais grimper aussi. » Cela dit, le jeune seigneur, qui était vigoureux et leste à cette époque, avait déjà sauté sur la croupe du cheval étonné de cette double charge. Puis il prit à bras-le-corps le grand diable de domestique qu'il tenait ainsi enlacé. « Sans reproche, monsieur, » lui dit le rustre en tremblant, « si j'avais su tout ce que vous faites faire à vos domestiques, j'aurais préféré rester à la métairie. »« C'est justement à cause de cela que je ne me suis pas expliqué, » repartit Jonquière, qui avait envie de rire de la réflexion du valet. « En vous perdant, j'aurais été privé d'un auxiliaire qui m'était indispensable. Selon mes calculs, j'avais besoin de votre taille comme de la crue de la rivière. À propos, vous êtes bien sûr d'avoir la grandeur que vous m'avez dit. 5 pieds 10 pouces. « Monsieur, je crois que c'était là ma taille sur terre, » balbutia le poltron de valet. « Mais sur l'eau et sur un cheval la nuit, je dois perdre beaucoup. »« C'est bien, tenez-vous droit et ferme. Je vais vous escalader. » Là-dessus, le chevalier étreignit le paysan de ses genoux. Puis il lui posa les pieds sur les hanches et les mains sur les épaules. Bientôt les pieds prirent la place des mains. « Monsieur, monsieur !» dit le valet à Jonquière sur un ton d'effroi. « Nous sommes perdus. On marche dans le mur sur ma tête. » « C'est Isor, sans doute, » pensa le gentilhomme avec une secrète joie, et sans répondre un mot, il donna du pied sur l'oreille du serviteur pour lui imposer silence. En ce moment, Gédéon, en s'appuyant contre les pierres de la tour, était parvenu à se dresser debout. Il tâtonna la muraille, et bientôt sa main rencontra l'embrasure, puis les barreaux d'une lucarne. Il s'y accrocha avec avidité, avec bonheur. Il ne s'était pas trompé, ses calculs étaient exacts, tout lui réussissait à merveille. Mais à peine venait-il de s'accrocher ainsi qu'une main glaciale se posa sur sa main et la serra vivement. Jonquière ne put retenir un cri de frayeur, et sa main, qu'il avait encore libre, chercha un pistolet qu'il portait à sa ceinture. « Pas de menace, » dit une voix partie de l'intérieur de la tour, « je ne suis pas un ennemi. »« Qui m'en répond ?» murmura Jonquière. « Qui vous en répond ?» lui fut-il répliqué. « Cette main qui tient la vôtre, car sans elle... » Comme le barreau qui vous sert d'appui a été limé par moi, vous auriez déjà roulé dans le gouffre. » Le chevalier frémit sans prononcer une parole. Il se souvenait en ce moment avec une frayeur rétrospective qui le couvrit d'une sueur froide que la barre de fer dont il s'était emparé avait faibli dans sa main. « Oh, ne craignez rien, monsieur, » continua le prisonnier en le rassurant. « Le barreau de droite est solide. » En même temps, il conduisit la main du gentilhomme et celui-ci qui menaçait tout à l'heure remercia maintenant avec effusion. « Monsieur, » continua le prisonnier, « voilà 10 ans que je suis dans ce cachot, et je devine pourquoi vous êtes là. Je vous attendais. » Jonquière fit un mouvement. « Rassurez-vous, je ne sais rien. Seulement, il y a quelques mois, la chambre qui est sur ma tête a été occupée. J'ai deviné à la démarche que c'était une femme, et à la fraîcheur de sa voix que cette femme était jeune, car je ne la connais pas. Mais les prisonniers ont l'oreille fine. Dès ce moment, j'ai espéré mon salut, et j'ai travaillé en conséquence, comme vous avez pu le voir. Cette victime du dernier baron d'Ambre, me suis-je dit, est jeune, jolie peut-être. Donc elle a quelqu'un qui s'intéresse à son sort, quelqu'un qui viendra la tirer de là. Celui-là, quel qu'il soit, son frère, son mari, son amant, j'en ferai mon libérateur. Depuis quelques jours, j'ai compris que le moment approchait, car ma voisine se promenait plus souvent sur la terrasse qui me sert de toit. Elle s'y est promenée ce soir ? Demanda vivement le chevalier. « Oui, monsieur, elle y était tout à l'heure encore. Elle va revenir sans doute, et en attendant, je vais déménager de mon cachot. Il y a 10 ans que j'habite, je suis pressé d'en sortir. Une fois libre, je vous aiderai, si vous en avez besoin. » Aussitôt, avec un empressement qui se conçoit, le prisonnier enleva une barre de fer et par l'ouverture rampa jusqu'au chevalier. Alors il prit son libérateur à bras-le-corps et s'étant glissé le long du valet, il se coula dans la barque. Un instant après, des pas retentirent près de la balustrade. On toussa doucement et avec précaution. Jonquière répondit à cet appel. 2 noms furent échangés. C'était Isor. Une balise, quelques paquets de hardes rassemblés à la hâte passèrent par cette échelle vivante, par où avait déjà descendu le prisonnier. Enfin, le fardeau, le plus précieux, Isor elle-même, se remit au bras du gentilhomme qui, pour ne pas l'exposer au contact d'un valet, ordonna au serviteur de s'asseoir sur le cheval. Puis, descendant lui-même comme d'un marchepied des épaules du valet sur la croupe de la monture, il déposa bientôt dans la barque le corps adoré de Mademoiselle d'Ambre, sans avoir eu besoin de s'en dessaisir durant ce périlleux trajet. Quelques minutes plus tard, tout le monde était arrivé à bon port sur le rivage. Une fois à terre, le prisonnier serra la main de son libérateur, et avant de le quitter, « Je ne suis qu'un pauvre diable, lui dit-il, mais vous n'aurez pas obligé un ingrat. » Le prisonnier partit. Jean-Pierre s'aperçut que le valet, qui lui avait été si fort utile jusque-là, commençait à l'embarrasser beaucoup. Il ne voulait pas le congédier de peur d'indiscrétion de sa part. Alors il lui remit quelque argent et lui donna l'ordre d'aller l'attendre à Carcassonne. C'était un moyen de le dérouter, car une heure après, Gédéon et Isor avaient rejoint une chaise qui les emportait dans une direction toute contraire. À force de vitesse, achetée à cher denier, le couple voyageur arriva à Toulouse comme le jour commençait à poindre. De peur d'être reconnus, ils descendirent dans une auberge des faubourgs. Ils y restèrent à peine le temps indispensable pour faire leur premier déjeuner et repartirent presque aussitôt. Cette fois, ils voyageaient de jour, et comme ils avaient grand peur, ni l'un ni l'autre n'osaient montrer la tête à la portière. Gédéon et Isor s'étaient figuré que leur fuite devait préoccuper l'univers. Oh, vraiment, ce furent bien là les plus belles journées de toute la vie du chevalier, et jusqu'à la pointe de terreur qui activait leur fuite, tout concourait à la rendre pleine d'attrait et de tendres émotions. La seconde nuit, Isor, vaincu par la fatigue, s'endormit à côté du chevalier, et celui-ci, fier de cette confiance, admirait en extase cette jeune fille qui allait être sa femme et qui sommeillait presque dans ses bras avec la sécurité de la vertu. Le jour suivant, ils traversèrent Bordeaux sans s'y arrêter. Ils étaient impatients d'arriver à Barbezieux où ils allaient. Un ancien chapelain de la famille de Jonquière desservait la paroisse de Saint-Imas à Barbezieux, et c'était à lui que Gédéon comptait s'adresser pour lui confesser son aventure et faire bénir son mariage. Avant d'arriver à cette petite ville, qui devait être leur premier refuge, un incident les retarda au bac de la Dordogne. Ils perdirent, à Cubsac, une demi-journée, le batelier refusant de passer leur équipage à cause d'une crue subite survenue la veille. Ainsi, le même accident qui les avait secondés sur le Torré leur avait fait obstacle sur la Dordogne, ce qui les avait favorisés sur une rivière leur nuisit sur un fleuve. Ce fut donc le quatrième jour après leur départ qu'ils arrivèrent à Barbezieux, et à peine eurent-ils choisi un gîte et pris nourriture et repos que le chevalier s'occupa d'aller trouver le prêtre qui devait bénir leur union. C'était la première fois depuis leur départ du château d'Orion que les deux amants allaient se séparer. Isor sentit un serrement de cœur et voulut retenir Jonquière. « Mon ami, lui dit-elle, pardonnez-moi, c'est un enfantillage, mais j'ai peur. Il me semble que je vais vous perdre. Oh, si j'allais ne plus vous revoir !» Et la pauvre fille fondit en larmes en se jetant au cou du chevalier. Celui-ci la rassura de son mieux. Isor finit par rire elle-même de ses craintes, et Jonquière s'en alla. Mais il ne fut pas plus tôt dehors que les pensées qui avaient attristé la jeune fille revinrent en foule. Jusque-là, elle avait été comme étourdie sur son état. Le chevalier, toujours attentif, toujours présent, l'avait pour ainsi dire enveloppée de sa confiance, de son courage. Cette pensée qui épiait sa pensée et lui donnait une tournure riante quand elle menaçait d'être sérieuse, ce bras fraternel qui était pour Mademoiselle d'Ambre une défense et un appui, tout cela lui manquait à la fois du même coup. Rien ne s'interposait plus entre elle et le monde. Alors Isor fit un triste retour sur sa situation. Elle se prit à regretter le vieux château qui jusqu'alors avait été son abri et son asile. Elle songea avec amertume au désespoir terrible de son vieux père, au mépris qu'elle s'était attiré de tous les gens qu'il avait connus, et qui avait pour elle l'habitude de l'admiration et du respect. Elle jeta les yeux autour d'elle et, se voyant seule dans une chambre inconnue, rendue plus triste encore par la nuit qui tombait dans ses rues étroites, il lui sembla qu'elle était abandonnée de tous, et alors, prenant à deux mains sa tête éperdue, les larmes et les sanglots la suffoquèrent. Cependant, le chevalier, après quelques fausses marches et quelques détours inutiles, avait fini par découvrir le clocher et puis l'église de Saint-Imas. Il frappa une petite porte cochère entre deux contreforts qui soutenaient le chevet de l'église, jugeant que ce devait être là la sacristie ou le presbytère. Un jeune enfant de cœur, qui vint ouvrir aussitôt, lui apprit que depuis trois semaines la paroisse avait changé de pasteur et que l'ancien curé était allé desservir l'église du Thor à Toulouse. Cette nouvelle atterra le chevalier. Il balbutia des excuses sans savoir ce qu'il disait. et la tête basse, le cœur gros, le désespoir dans l'âme, il s'en retourna cherchant en chemin une manière de rendre moins sensible, pour Isaure, le coup qu'il allait lui porter. Il était nuit close et, comme Jonquière approchait de son logis, il crut remarquer qu'il était suivi. Il ne voyait personne à cause des ténèbres, mais il entendit des pas méthodiques dont la mesure et le fracas annonçaient la présence de quelques soldats de la maréchaussée. Alors, au lieu d'entrer dans son auberge, où il allait être cerné, le chevalier rebroussa chemin, tirant son épée et appelant main forte. Mais aussitôt deux coups de sifflet se répondirent, et de la porte de l'hôtel où il se tenait embusqué, d'autres estafiers se montrèrent, si bien qu'en un instant le chevalier fut enveloppé de toutes parts. La résistance était impossible, et malgré ses efforts et ses cris, le chevalier fut désarmé, garrotté, enfin conduit dans la prison de la ville, où on les croit comme prévenus de rapt et de séduction. Il n'est pas difficile de se faire une idée de la désolation de Jonquière, et ce qui l'inquiétait davantage, ce n'était pas tant son infortune que la destinée de sa pauvre compagne, qui était devenue Isaure. Isaure qu'il avait quittée sans lui faire ses adieux, qu'il avait quittée malgré de sinistres pressentiments. Isaure qu'il n'avait pu protéger ni défendre, car il se doutait bien qu'elle avait été comme lui, victime de la même violence. Toutefois, il n'avait aucun renseignement sur le sort de Mademoiselle d'Ambre. Seulement, quelques jours après, aux questions que lui fit un officier de la prévôté, Jonquière comprit que le baron avait couru sur les traces des fugitifs, que le père d'Isaure était arrivé à l'auberge quelques moments après que lui, Gédéon, en était sorti, et que la jeune fille, malgré ses plaintes, malgré ses cris, avait été jetée, plus morte que vive, dans un carrosse et emmenée sous bonne escorte. Il ne put jamais en savoir davantage. Le chevalier de Jonquière resta 2 mois en prison, après quoi il fut relâché sans autre forme de procès. Mais où aller? Quel parti prendre? Avant de se décider, Jonquière, devenu libre, revint à l'auberge où il avait logé avant son arrestation. Là, on lui remit un petit billet fort grossièrement plié et plus grossièrement écrit. On y lisait, à travers plus de fautes d'orthographe qu'il n'y avait de mots, les lignes suivantes. « Si vous voulez vous rapprocher de Mademoiselle d'Ambre, allez à Paris, et quelques jours que vous y arriviez, que ce soit 7 heures du soir et par la porte d'enfer. » L'aubergiste questionné sur la personne qui lui avait remis ce papier répondit que c'était un pauvre voyageur qui allait chercher une condition et fortune à Paris. Si vague que fût ce billet, et si peu rassurant que parut le personnage dont il émanait, le nom d'Isaure avait suffi pour déterminer le chevalier. Il partit donc de Barbezieux pour Paris. Il y arriva un jeudi du mois de juin, et pour obéir aux prescriptions de son correspondant anonyme, il quitta le coche à Bourg-la-Reine, où il se fit descendre et où il attendit l'heure désignée pour son entrée en ville. À 7 heures précise, il mettait le pied dans Paris. Arrivé à la porte qu'on lui avait marquée, Jonquière se tourna et se retourna sans voir personne qui eût l'air de prendre garde à lui ou d'attendre quelqu'un. Un joueur de vielle se tenait près de la barrière, au milieu d'un attroupement de curieux, vendant à droite et à gauche les chansons dont son instrument jouait les airs. Le chevalier, par désœuvrement et pour se donner une contenance, fit comme tout le monde. Il acheta aussi une petite brochure que lui offrit le batteleur et, sans autrement y jeter les yeux, la mit dans sa poche. Le gagne-denier ayant fait sa récolte, alla plus loin la recommencer et les badauds le suivirent. Par ce moyen, la place fut à peu près dégarnie. L'inspection de Jonquière en devint plus facile, mais aucun indice ne vint lui prouver que quelqu'un le cherchât ou l'attendît. Sans plus de résultat, il ne s'éloigna pas jusqu'à la nuit, mais la nuit venue, il perdit espoir et patience. Il revint à Bourg-la-Reine, tout désolé, se reprochant amèrement d'avoir donné créance à ce faux avis, qui, le croyait-il du moins, ne lui avait été remis que pour lui faire prendre le change et l'éloigner de celle qu'il aimait. Comme il se déshabillait pour se mettre au lit, le cahier de chansons auquel il ne pensait plus tomba des poches de son habit, il le releva et, machinalement, regarda l'objet qu'il avait acheté. Mais voilà qu'à la première page, il lit ces mots tracés par une main dont il connaissait déjà l'écriture et l'orthographe. « Allez-vous loger à l'hôtel du Béarn, rue Culture Sainte-Catherine, entre l'hôtel Carnavalet et les Filles Bleues. On vous y donnera plus tard des nouvelles de Mademoiselle d'Ambre. » Cette découverte, au moment où il croyait tout perdu, combla de joie le chevalier et dès le lendemain, il alla se loger à l'hôtel de Béarn. Plus de doute que le donneur d'avis ne fût le joueur de vielle, mais où le trouver ? Jonquière, à peine installé, se mit à battre l'estrade et à courir tout Paris. mais sans doute que l'homme avait quitté la ville ou changé de profession, car si bien qu'il s'y prit, il ne put jamais le découvrir. Toutefois, le chevalier avait confiance désormais dans les avis de son inconnu, car une lettre qu'il reçut d'un de ses amis de province lui apprit que ni Mademoiselle d'Ambre ni son père n'étaient retournés à Orion, et que le bruit commun était que la fille du baron gémissait à Paris dans quelque couvent. Or, en attendant qu'il sût à quel couvent il fallait l'arracher, Jonquière s'inquiéta des moyens pour y parvenir. D'ailleurs, s'occuper de la liberté d'Isor n'était-ce pas pour lui la plus agréable façon d'employer son temps? Un capitaine basque, qui logeait dans le même hôtel, et à qui Jonquière confia son dessein, se chargea de trouver pour cette entreprise des auxiliaires de bonne volonté. Gens à tout faire si on payait tout et qui ne demandent jamais quoi, mais combien. Sur ces entrefaites, un nouveau billet parvint au chevalier, dans lequel on l'instruisait que Mademoiselle d'Ambre avait été renfermée au couvent de la Visitation au faubourg de la Conférence. Aussitôt, le chevalier courut à Chaillot et alla frapper au couvent des religieuses de la Visitation. Une vieille béguine qu'il reçut au parloir flaira le galant d'une lieue et, sans lui rien apprendre, lui ferma le guichet sur le nez et le mit à la porte. Le chevalier ne se tint pas pour battu. Il se porta dans les environs, épiant tous ceux qui entraient ou sortaient, s'en remettant à son intelligence du soin de démêler la personne qu'il devait interroger. Après 2 jours de faction inutile, il vit sortir une sorte de paysan. Il l'aborda, et l'ayant fait jaser en l'invitant à boire à la guinguette voisine, cet homme lui déclara qu'il était le jardinier de la communauté. Mademoiselle Isor d'Ambre était bien effectivement renfermée dans ce couvent, et depuis qu'elle y était, à ce que dit le jardinier, elle n'avait reçu que la visite de son père et de son futur, le marquis d'Écolive. À ce nom exécré, le chevalier sentit le sang lui monter à la figure. Il se contint néanmoins pour en apprendre davantage. « Il paraît que la petite a fait une frasque, » ajouta le jardinier avec un gros rire, qui acheva d'exaspérer le gentilhomme. « Une frasque pas mal forte, même que le marquis d'Écolive s'était d'abord retiré. Mais la finance rajuste bien des choses. Le père de la demoiselle est en passe de gagner une somme énorme. » Oui, le baron d'Ambre s'est fourré dans une société de traitants qui s'entendent comme larrons en foire. Et comme c'est demain l'adjudication des fermes générales, on dit qu'ils attraperont ça. Le galant qui faisait le renchéri a eu vent de la chose et s'est représenté. Seulement le gaillard veut attendre l'issue de cette affaire des fermes. C'est pas tout. On assure d'autre part que si le marquis est revenu si vite, ça tient à ce qu'il s'est aperçu qu'il était presque ruiné. Par ainsi, la fortune du gendre, se trouvant comme la vertu de la fille, il était naturel. « Misérable !» s'écria Jonquière, interrompant tout à coup l'insolent jardinier. « Tu oses insulter, Mademoiselle d'Ambre, une calomnie de plus et je t'étrangle. » En même temps, le chevalier s'était levé terrible. L'œil en feu et la main sur son épée, il marchait sur le butor. Le pauvre diable crut que sa dernière heure était venue. Aussi, sans demander son reste, il se mit à pousser les hauts cris et à décamper à toutes jambes. Le chevalier, resté seul, réfléchit profondément. Un espoir lui restait encore. Le mariage avait lieu dans 2 jours. Mais lui ne pouvait-il pas, le lendemain, enlever Isor à son couvent? Plein de cette pensée, il rentra à son hôtel et monta à la chambre du capitaine basque. Le capitaine n'avait pas perdu de temps, et il avait découvert 8 estafiers très solides qui consentaient à s'embarquer dans cette périlleuse entreprise moyennant 2000 livres, ce qui était pour un morceau de pain au dire du capitaine. Par malheur, Jonquière n'avait pas le quart de ce morceau de pain, mais loin de se laisser abattre par cet obstacle imprévu, il ne laissa rien paraître de son affreux embarras et promit une réponse pour le lendemain. Il comptait sur une dernière ressource, le jeu. La nuit suivante, vers 2 heures du matin, sorti de l'hôtel de Transylvanie, un jeune seigneur, les mains dans ses poches et la tête basse. Sans en voir plus long, les gagne-deniers qui stationnaient aux environs de cet hôtel où se jouait un jeu extravagant devinèrent aussitôt que ce n'était là ni l'attitude ni le geste d'un joueur fortuné, car celui-ci porte haut la tête. Il ne tient pas non plus les mains dans ses poches, par la raison que ses poches sont pleines. C'est pourquoi les cochers de fiacre, les porte-chaises, les porte-falots et autres canailles qui bivouaquaient dans la cour ou dans la rue ne se dérangèrent-ils guère pour faire offre de leur service aux gentilshommes, quelques porte-falots seulement, par la raison que leurs bons offices sont à peu près indispensables et d'un prix fort modique, se présentèrent en criant, selon l'usage, « Voilà le falot !» mais un refus sèchement exprimé rendit les uns à une pipe qu'ils n'avaient pas achevé de fumer, les autres à une partie de dés qu'ils jouaient sur les dalles, ou encore à des cartes reluisantes de graisse qu'ils maniaient sur la banquette d'un décrotteur orné en guise de tapis de la couverture d'un cheval. Qu'on nie après cela la contagion de l'exemple. Les valets jouaient dehors parce que leur maître jouait dedans. L'homme est un singe. Le jeune seigneur, qui n'était autre que le chevalier de Jonquière, semblait être pressé de fuir cette caverne. Il se jeta donc dans la première rue obscure qui s'offrit à lui, lançant des imprécations au ciel, frappant la terre du pied, et de sa main inquiète, tantôt creusant son front, tantôt déchirant sa poitrine. Il était si absorbé dans son irréparable malheur, le pauvre jeune homme, qu'il ne prit pas garde à un porte-falot plus tenace et plus persistant que les autres. Jonquière crut d'abord que ce n'était pas à son intention que cet officieux domestique le précédait lanterne en main. Mais celui-ci, lui ayant d'un ton flegmatique adressé cette question, « Où faut-il conduire, monsieur ?»« Allez au diable !» répondit le gentilhomme exaspéré. « Au diable ? Je ne sais pas où c'est. Quoi qu'on m'y envoie quelquefois, » reprit l'éclaireur de nuit sans s'offusquer. La voix de cet homme frappa Jonquière. Elle ne lui était pas inconnue, mais le chevalier n'avait pas assez de sang-froid pour réfléchir sur pareil incident. « Je vous défends de me précéder, » dit-il au porte-falot d'un accent ferme et impératif. « Soit, en ce cas je vous suivrai, » repartit l'autre, « car vous ne pouvez avoir l'intention de m'interdire les rues de Paris, et j'ai justement affaire où va monsieur. « C'est impossible, faquin !» cria le chevalier tout hors de lui. « Où allez-vous donc ?»« Je vais me noyer, » répondit le porte-falot. À ces mots, le chevalier bondit de surprise, tant il fut abasourdi de voir cet homme pénétrer si avant dans sa pensée. Toutefois, il vit bien que son étrange compagnon l'empêcherait d'exécuter ce fatal projet. « Après tout, que m'importe » pensa-t-il, « n'ai-je pas mes pistolets chez moi ?» Et le chevalier se résigna à prendre le chemin de son hôtel plutôt que celui de la rivière. Chemin faisant, il voulut interroger le porte-falot. Mais celui-ci garda un obstiné silence. Seulement, après avoir accompagné le chevalier jusqu'au bout, il lui souhaita une bonne nuit. À peine entré dans sa chambre, Jonquière courut à sa boîte de pistolets. Les armes avaient été enlevées, mais à la place il trouva les fables de La Fontaine. Le livre était ouvert à une certaine page, et Jonquière remarqua ce vers souligné à l'encre. « On a souvent besoin d'un plus petit que soi. » Puis, en regard de ce vers, qui est le second de la fable du lion et du rat, ces lignes, d'une écriture qu'il connaissait bien, « J'ai découvert la demeure du marquis d'Écolive. Demain, j'aurai l'honneur de vous conduire près de votre rival. »« Merci, mon Dieu !» s'écria le chevalier. « Merci de m'avoir envoyé cet homme pour m'empêcher de mourir. »« Monsieur d'Écolive n'épousera pas Isor, ou s'il l'épouse, je ne le verrai point, car alors c'est lui qui m'aura tué. » Cette bonne nouvelle ranima l'espoir défaillant de Jonquière. Il se coucha plus satisfait et dormit d'un bon sommeil. Le lendemain, quand il se réveilla, il était déjà grand jour. Le soleil envoyait sa riante clarté dans la chambre. Le chevalier s'habilla au plus vite et mit la tête à la fenêtre pour voir arriver l'homme dont il attendait la visite. Jonquière aperçut alors, devant la porte de son hôtel, un magnifique carrosse. Un moment après, on va lui dire que cette voiture était là à son intention et qu'on l'attendait en bas. Jonquière, de plus en plus émerveillé, descendit dans la rue. Il y trouva, pour le recevoir, un jeune valet, et tout aussitôt il reconnut à la figure le joueur de vielle de son entrée à Paris et à la voix le porte-falot de la veille. L'inconnu ne nia point, et comme le jeune seigneur le remercia avec effusion, lui demandant le motif d'un dévouement si extraordinaire, « Monsieur le chevalier, lui dit le valet avec un sourire, nous nous expliquerons plus tard, mais nous sommes très pressés et je n'ai que le temps de vous dire fort peu de choses. « Sachez seulement que je suis le valet de chambre du ministre des Finances, M. de Calonne, et que je vais vous conduire où nous allons, dans un des carrosses de son Excellence. » Et comme Jonquière hésitait à monter dans cette riche voiture, « Oh, monsieur le chevalier, n'ayez pas de scrupules, » ajouta cet homme. « Mon maître vous connaît, et il est instruit de l'usage que je fais de son carrosse. Dans une heure, vous saurez tout. Voyons, je ne vous ai jamais trompé. Ayez donc confiance en moi jusqu'au bout. » L'air de franchise et le ton loyal dont le valet prononça ces paroles décidèrent le chevalier. Beaucoup par persuasion et un peu par curiosité, il monta dans le carrosse. L'équipage partit au galop, et quelques minutes plus tard, Jonquière, à son grand étonnement, se trouva porté au Louvre. C'était au Louvre aussi qu'allait avoir lieu l'adjudication des fermes générales. Les enchérisseurs, qui y étaient rassemblés presque tous, eurent bientôt mis leur nez aux fenêtres, car l'arrivée de cette voiture dans les cours intérieures où les équipages des princes, des ministres, des ambassadeurs avaient seul accès, les intriguait terriblement. Leurs inquiétudes furent plus grandes encore quand ils eurent reconnu la livrée du ministre des Finances. Bientôt même, ils virent le valet de chambre de son Excellence se présenter avec force politesse à la portière du carrosse et dire bien haut à la personne qui était dedans « Monsieur le chevalier n'a pas besoin de se déranger. Je vais voir où en sont les choses et j'aurai soin de prévenir monsieur. » Jonquière ne comprit rien à cette énigme, qu'il commençait à regarder comme une mystification, mais les associés en furent atterrés. Plus de doute, c'était un concurrent qui leur tombait des nues, et il n'y avait que deux parties à prendre, lui céder la place s'il était le prête-nom de son Excellence, ou bien, si cet homme venait pour son propre compte, sous la protection patente du ministre, tâcher de le désintéresser à tout prix. À ce moment, le valet de chambre du ministre entra d'un air discret dans la salle de l'adjudication. Il fut bientôt entouré de curieux. Et le gaillard, qui savait son rôle, répondit brièvement à toutes les questions et de manière à en faire entendre beaucoup plus qu'il n'en disait. Alors le baron d'Ambre, comme le chef de la cabale, parla à l'oreille de quelques-uns des plus marquants parmi les spectateurs, après quoi il alla droit au valet et le prit à part dans une salle voisine. Quand ils furent seuls et tête à tête, il aborda franchement le sujet de la négociation et offrit au nom de ses associés 100 000 écus si le nouveau prétendant voulait ou pouvait s'abstenir. Tout en parlant, le baron observait le domestique et celui-ci souriait dans sa barbe. Enfin, n'y tenant plus, « Il me semble vous avoir vu quelque part, » dit M. d'Ambre au valet. « Ce n'est pas étonnant, » répondit celui-ci. « Vous m'avez hébergé 10 ans dans vos cachots d'Orion, et c'est le chevalier de Jonquière qui m'a tiré de là le soir même qu'il enlevait votre fille. Je me nomme Jérôme Sirben. » À ce nom, le baron tressaillit. Le valet comprit cette légitime frayeur, et pour le rassurer, « Monsieur le baron, » lui dit-il d'un air tranquille, « il dépend de vous que tout soit oublié. Vos associés offrent 100 000 écus, mais la personne pour qui je parle ne demande pas d'argent. Ainsi vous êtes libre de vous attribuer cette somme, car c'est vous seul qui ferez les frais de son désistement. Cet homme, c'est le chevalier de Jonquière, et ce qu'il demande, c'est la main de Mademoiselle d'Ambre, votre fille. » Si le baron avait été en province, au fond de son château, il aurait jeté dans les oubliettes l'insolent serviteur et repoussé le chevalier avec le dernier mépris. Mais à Paris, dans cette conjoncture, il vit dans le valet un ancien captif en position de lui nuire en se vengeant, et dans le chevalier, un compétiteur dont il était heureux de se débarrasser. Bref, le baron consentit à tout. L'allégresse du chevalier, qui attendait un duel et à qui on annonce un mariage qu'il osait à peine rêver, les larmes de joie d'Isor quand, le soir même, elle fut unie au plus épris et au plus fidèle des maris, tout ce bonheur se comprend, se devine, mais ne peut s'exprimer. Et pour ma part, je n'essaierai pas de le faire. » Ici, le marquis de Fariol se tut un moment, puis s'étant levé debout, les bras croisés et me prenant à partie. « Eh bien, monsieur, me dit-il, maintenant que vous savez cette histoire, trouvez-vous que ce prisonnier si reconnaissant, que cet homme du peuple, ce valet auquel le chevalier a dû sa fortune, sa vie, son bonheur, trouvez-vous qu'il n'a pas plus fait pour le gentilhomme que tous ses ancêtres ensemble ? Trouvez-vous qu'il serait déplacé si on lui donnait le meilleur rang parmi les aïeux du chevalier ?» Et sans me laisser le temps de lui répondre, le marquis de Fariol ajouta « Eh bien, ce valet, vous le connaissez, vous l'avez vu ?»« Ah, j'y suis » m'écriai-je en regardant de plus près le portrait du valet de cœur. Je m'explique cette ressemblance qui m'intriguait. Le vieux domestique qui m'a introduit. C'est le prisonnier, le jour de Vielle, le porte-falot. C'est enfin Jérôme Sirben. « Et le chevalier de Jonquière ?»« C'est moi, » me répondit le marquis de Fariol. Là-dessus, je pris congé du vieux gentilhomme. Dans la cour de son château, je rencontrai Jérôme Sirben, qui avait déjà disposé passe-volant pour mon départ et le tenait par la bride. J'abordai le valet avec le respect que m'avait inspiré pour lui le récit que je venais d'entendre. La déférence de mon attitude n'échappa point au vieux Jérôme. je vois ce que c'est, me dit-il en souriant. Monsieur le marquis vous aura conté quelques bourdes, ça ne m'étonne pas. Puis il ajouta avec un soupir, le pauvre homme, il n'en fait jamais d'autres. Bien sûr, il vous aura dit des bêtises, comme à tout le monde. Comment ? M'écriai-je en montant à cheval. Est-ce que monsieur le marquis ?
Hélas, oui, monsieur, répondit le valet. Voilà 5 ans qu'il bat la breloque.
Je partis tout sérieux, et le dirais-je, un peu attrapé. Mon chemin pour retourner à Aiguefonde m'obligeait à longer le pavillon où était l'appartement du marquis. Tout à coup, comme je passais sous la terrasse, j'entendis quelqu'un qui m'appelait. Je levai la tête, c'était le marquis. Il s'était avancé humblement jusqu'au garde-fou de la toiture, quand je fus à portée de sa voix. « Mon cher monsieur, me cria-t-il, je parie que Jérôme Sirven vous aura arrêté dans la cour pour vous parler. » Je fis de la tête un signe affirmatif. « Là, j'en étais sûr. C'est sa marotte, » reprit le vieux gentilhomme d'un air de compassion. « J'avais oublié de vous prévenir, le pauvre diable. » En même temps, il se frappa la tête du bout de ses doigts et fit avec la main un tournoiement comme pour signifier que son valet avait le cerveau détraqué. « Vraiment ? » m'écriai-je. « Oh mon Dieu, oui, » répondit-il. « Voilà 5 ans qu'il radote. » Je partis au grand galop en me demandant moi-même lequel des deux était le fou. Était-ce le valet ? Était-ce le maître ? À coup sûr, c'était l'un ou l'autre. À moins, pourtant, que ce ne fût votre serviteur. C'est ainsi que se termine le valet de cœur de Frédéric Thomas.